Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Votre avenir financier prend le pouvoir pour encore une heure jusqu'à 18h sur BFM Business. On vous accompagne sur l'ensemble de vos placements au rythme des marchés. Des marchés qui, alors il faut bien le dire, piétinent un petit peu végète aujourd'hui. Notre CAC 40 quasi stable, 7085 points, alors que Wall Street évolue zone autour de l'équilibre. Wall Street, le S&P perd 0,1%. Le Nasdaq gagne, lui, 0,1%. Une publication quand même arbitrée. Cette forte sanction, cette lourde baisse pour le titre Intel qui recule toujours d'à peu près 7% en ce moment sur le marché américain. On va y revenir et on va se préparer au GAFA qui vont aussi publier la semaine prochaine. On a eu Microsoft cette semaine, on suivra la semaine prochaine. Mercredi soir, Meta, et jeudi, pêle-mêle, Apple, Amazon et Alphabet. Ce sera une grosse semaine. Du côté des GAFAM, on va vous apporter les clés pour anticiper au mieux la façon dont les marchés pourraient réagir à toutes ces publications. Du côté des indicateurs macroéconomiques, plutôt une bonne surprise aujourd'hui. L'inflation continue de ralentir aux États-Unis. On va vous livrer le détail des derniers chiffres, l'indice PCE qui a été publié. Aude Kersulek nous rejoint tout de suite en direct sur BFM Business.
BFM Business, l'info éco, Aude Kersulek.
Et à la une aux États-Unis, cette inflation qui ralentit à 5% sur un an en décembre, selon l'indice PCE, le préféré de la Fed. Sur un mois, le revenu des ménages a augmenté de 0,2% et les dépenses des ménages ont diminué de 0,2%. La confiance des consommateurs se redresse encore en janvier avec un indice à 64,9, mais reste historiquement bas selon l'Université du Michigan. Et dans la saison des résultats, Chevron publie un bénéfice annuel record porté par les cours du pétrole, 35 milliards de dollars pour la majorité américaine pour 2022. Le précédent record datant de 2011 a été battu de plus de 10 milliards de dollars et le chiffre d'affaires atteint lui aussi un plus haut historique à 246 milliards. Le bénéfice par action ajusté ressort lui en revanche en dessous des attentes. Au Royaume-Uni, le ministre des Finances Jeremy Hunt a présenté un plan pour la croissance pour faire face au déclinisme. Selon ses mots, le gouvernement va notamment entreprendre une réforme de la directive européenne des assurances Solvency 2 pour attirer des investissements verts ou dans les infrastructures. Le gouvernement qui appelle également ceux qui ont quitté le marché du travail ces derniers mois à reprendre une activité pour réduire la pénurie de travailleurs. L'Union européenne prolonge, elle, de 6 mois ses sanctions à l'égard de la Russie et devrait bientôt rajouter une 10e série de sanctions depuis le début de la guerre. En zone euro, moins de crédits accordés aux entreprises pour le deuxième mois d'affilée en décembre, selon les données de la BCE. C'est évidemment une conséquence de la hausse des taux. Dans le rachat de ITA par Lufthansa, Rome vient de signer une lettre d'intention, ce qui va entamer les négociations. Lufthansa envisage de prendre une participation de 40% dans la compagnie italienne. Et des salariés d'Ubisoft en grève pour dénoncer un dialogue social difficile. Les syndicats appellent les 6000 salariés français à laisser leur écran éteint. Une première pour l'éditeur de jeux vidéo dont les chiffres devraient être moins bons que prévu pour 2022. Et enfin, les médecins libéraux qui en appellent à Elisabeth Borne pour éviter un échec des négociations. Ils réclament plus d'argent alors que la nouvelle convention fixant leurs tarifs est négociée jusqu'à fin février. Une fermeture des cabinets est programmée pour le 14 février. Et à l'agenda BFM Business, retrouvez ce soir Richard Olinsky, l'artiste français. Il est l'invité de Frédéric Mazzella à 19h dans Les Pionniers. Et puis demain, dans l'émission Grand Format, Edwige Chevrillon est reçu par Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroports de Paris. C'est demain à 20h.
BFM Business, BFM Bourse, le club.
Merci Aude, et bien sûr on va continuer de parcourir grâce à vous l'ensemble de l'actu tout au long de cette fin de journée. Le CAC 40 est à une grosse demi-heure maintenant de sa clôture. On est en légère baisse aujourd'hui, moins 0,18%, 7080 points. On arbitre pas mal de publications de sociétés. Bon, LVMH qui évolue autour de l'équilibre. On a touché tout à l'heure un nouveau plus haut historique sur ce titre LVMH, comme sur Hermès après la publication hier soir d'LVMH. Mais City émet des réserves sur les marges, notamment d'LVMH, si bien que le titre qui avait tout à l'heure touché un plus haut subit quelques prises de bénéfices, à présent moins 0,3%. Nos coéquipiers du club Hatchoum viennent de nous rejoindre en direct. Ils sont là et on est ravis de les accueillir. Mathieu Loire, bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Bienvenue. Responsable de la gestion diversifiée institutionnelle d'AXA IM. Alain Pitous également à nos côtés. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Senior Advisor sur les thématiques socialement responsables. Bienvenue à tous les deux. Bon, on a pas mal de publications. On va en parler dans le détail. Juste avant, peut-être le sentiment global autour de ces premières publications. On a 27% aujourd'hui. 27% du S&P qui a publié. En Europe, on n'en est pas encore là. Quel premier sentiment? On sent quand même que c'est moins bon que sur les trimestres précédents. En tout cas, aux États-Unis, Mathieu.
Oui, alors c'est moins bon que les trimestres précédents. Alors déjà, les résultats affichés montrent une baisse des bénéfices par rapport au même trimestre de l'année dernière. Donc si on regarde sur un an, on a une baisse d'à peu près entre 2 et 3% des bénéfices publiés en moyenne sur l'ensemble de la cote. Alors, c'est une saison de résultats un peu particulière parce que dans le même temps, les compagnies surprennent par rapport au consensus. Alors, il faut dire que le consensus avait révisé de façon très violente à la baisse, c'est-à-dire en amont de cette saison, c'est-à-dire depuis la saison précédente, le consensus a révisé les bénéfices par action de 8%. Donc, c'est quand même une grosse révision par rapport à la révision standard qu'on a l'habitude de voir. Les analystes ont tendance à réviser à la baisse en amont des saisons, des résultats. Pourquoi ? Parce que les compagnies essayent de guider les anticipations de manière à pas surprendre négativement le marché. Donc, c'est un point important. Mais là, on est en termes de magnitude, sur une magnitude qui est importante, 8%. Et le consensus continue à réviser à la baisse alors que la saison des résultats elle est maintenant bien commencée. On a quasiment un tiers des entreprises qui a publié. Donc, on sent que ça commence un petit peu à caler, qu'il y a un certain nombre d'interrogations. On a un certain nombre de warnings de compagnies qui nous disent que ça va un petit peu moins bien, tant sur les chiffres d'affaires que sur les marges. Et donc ça, c'est une des thématiques qui va continuer, a priori, à porter le marché pendant le reste de la saison des résultats.
Oui, porter ou faire peser un risque sur le marché, parce que si les marges, en effet, continuent de se dégrader, bref, si on reste sur le même train, vous pensez que les marchés finiront par décrocher ou on pourra maintenir les niveaux actuels, préserver les gains accumulés, notamment depuis le début de l'année? Même aux États-Unis d'ailleurs, Mathieu. Est-ce que si les publications restent du même acabit que celles qu'on observe, vous le disiez, on a un tiers du S&P quasiment qui a publié, est-ce que le S&P, les marchés américains, tiendront ou est-ce qu'ils devront peut-être corriger un peu?
Alors moi, je pense qu'ils vont devoir lâcher à un moment donné. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de rattrapage de la réalité. Nous, on s'attend à une baisse des bénéfices sur 2023 pour les entreprises américaines de l'ordre de 10%. Alors pourquoi? Parce qu'on attend une récession légère qui devrait commencer au deuxième trimestre. Et là, on en est du coup au début de cet ajustement-là. Il transitera essentiellement, selon nous, par les marges. On a des niveaux de marge qui sont à des niveaux exceptionnels, on le sait, parce qu'il y avait un pouvoir de fixation des prix très important des entreprises. On était dans une économie d'excès de demande. Donc lorsque vous avez de l'excès de demande pour les biens et services, les entreprises ont un pouvoir de fixation des prix extraordinaire. Et donc l'inflation, c'est traduite notamment par une augmentation des marges des entreprises. Mais ce que disait Brainard, donc vice-président de la Fed, qui va peut-être partir d'ailleurs de la Réserve fédérale américaine, c'est qu'on ne peut pas avoir une baisse de l'inflation et dans le même temps des marges des entreprises qui tiennent à des niveaux qui sont historiquement élevés. Un des deux éléments va devoir capituler et on voit mal la Fed capituler sur l'inflation. Donc il va falloir effectivement venir rogner dans les marges pour faire en sorte que l'inflation finisse par atterrir.
Alain, quelque chose, quelqu'un, un pan du marché va devoir à un moment atterrir?
Oui, j'entends ça. Effectivement, ce qui est surprenant, c'est la résilience des entreprises. Globalement, finalement, elles annoncent plutôt un peu mieux que ce qu'on craignait. Donc il y avait effectivement peut-être un phénomène d'anticipation, mais elles se sont adaptées assez rapidement pour justement préserver leur marge le plus possible. Moyennant quoi, là, je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, on voit le coût du financement qui augmente, on voit les salaires qui ont un peu augmenté, les coûts divers et variés qui ont quand même un peu augmenté. Donc tout ça, ça devrait peser sur les marges. Moyennant quoi, je pense qu'on va avoir une grosse différenciation. Alors, On évoque souvent growth versus value, enfin vous savez la thématique de la croissance contre la thématique de la valeur, pour faire simple. Je crois que ça va être plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est des blocs d'entreprises qui sont sur des marchés, on le voit avec LVMH, on le voit sur certains segments, on voit Sartorius, Tedim par exemple qui continue de croître. Je citais dernièrement une valeur Elevance Health qui a annoncé des résultats à deux chiffres et une croissance de son chiffre d'affaires à deux chiffres, parce que c'est des entreprises qui sont sur des dynamiques qu'on ne voit pas s'arrêter tout de suite. Alors ça va s'arrêter un beau jour, mais enfin ça, pour le moment ça ne s'arrête pas. Donc il y a ce bloc d'entreprises qui sont un peu chères mais qui continuent de croître, hein. On voit LVMH, c'est un peu cher, voire même très cher pour certains, mais enfin
moins que son secteur,
oui, tout à fait, oui, exactement. Et ça continue de croître. Après, on a le cœur de l'activité économique qui a du mal, hein, qui résiste, mais qui fait pas plus. Et puis des accidents. Et on a Intel qui est quand même un accident, hein, parmi d'autres.
Moins 8% actuellement Intel.
Voilà, et qui annonce des résultats qui sont de fait extrêmement décevants. Enfin, extrêmement, qui sont décevants, même peut-être un peu plus mauvais que ce qu'on pouvait craindre. Donc, et là, les sanctions sont très fortes. Et je crois qu'on va avoir une année comme ça. C'est-à-dire que on va avoir globalement des investisseurs qui vont rester investis. Ça, c'est quand même une thématique, je pense, qui va durer, parce que on va faire l'économie de sortir des marchés pour rentrer en attendant la reprise d'activité en 2024. C'est pas la peine de vendre si c'est pour racheter dans 6 mois.
Donc, on n'aura pas le phénomène de décollecte qu'on a notamment observé l'an dernier.
En fait, là, ça recommence à collecter. En fait, oui. C'est-à-dire qu'on le voit sur les segments, sur la dette émergente, sur le high yield, sur les actions, ça recommence à collecter. Alors, c'est récent, hein, ça date pas d'il y a très longtemps, mais on a décollecté précédemment. Et par contre, des accidents qui vont être, je pense, extrêmement sanctionnés. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir un peu les résultats des GAFAM la semaine prochaine. On peut évoquer quelques-unes, hein. C'est-à-dire que Apple, je pense que ça va être la plus regardée, c'est la plus sensible, parce que c'est quand même un des énormes leaders, quoi. Ouais. C'est un énorme leader.
Ce sera jeudi soir prochain.
Après, il y a Facebook, Amazon et Google. Ça peut être un peu plus challengé, je pense quand même. Donc, à suivre, parce que ça va quand même donner le ton sur toute la tech. Même si on l'a vu sur Microsoft, qui annonce des résultats qui sont finalement assez décevants sur pas mal d'activités, sauf sur le cloud, qui est un des segments qui, je pense, devrait continuer de croître dans les années qui viennent, hein, on parle peut-être même de décennies, et qui pourrait donner sur ce segment-là une très forte possibilité de performance pour les valeurs liées au cloud, en fait.
Voilà. Juste d'un mot, il y a cette révolution aussi de ChatGPT. Alors voilà, est-ce qu'on se dit il faut d'autant moins abandonner la tech, même si les publications seront peut-être décevantes, même si la tech licencie en ce moment, il faut d'autant moins l'abandonner qu'une nouvelle révolution va arriver et qu'elle va concerner ce secteur et que les gagnants de demain, les grands acteurs de demain, les leaders de l'intelligence artificielle sont probablement parmi ces GAFAM, où on se dit au contraire, ces GAFAM seront à leur tour disruptés, comme elles-mêmes ont disrupté d'autres valeurs il y a 20 ans.
Je pense qu'il y en a quelques-unes des GAFAM qui vont souffrir. Hein. On peut évoquer Facebook, Google, je pense que c'est quand même des entreprises qui peuvent souffrir de ces innovations diverses et variées. Après, je pense que Apple a peut-être un peu plus de capacité de résistance de son côté. Et le point aussi, je pense que sur la tech, on a eu une énorme performance de tout ce qui était B2C, c'est-à-dire une activité dédiée au retail. Et ce qui continue de se développer et ce qui va faire des marges, je pense, dans les années à venir, c'est le B2B et typiquement le cloud. Et l'intelligence artificielle, on voit bien que les usages pour les privés sont encore un peu... on a du mal à imaginer ce que ça peut être. Par contre, les entreprises, et on voit ce qu'a fait Microsoft en prenant une participation dans ChatGPT, c'est pour son activité, c'est pour offrir ses services à ses clients entreprises, quoi. Donc on est dans cette dynamique et je pense que cette dynamique ne va pas s'arrêter de sitôt.
Bon, et l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, qui va... Il n'y a pas que ChatGPT, mais là c'est vraiment la thématique en ce moment très très grand public, mais cette thématique intelligence artificielle aussi qui monte en puissance au cœur des GAFAM. Alors vous nous disiez, je pense que Meta, Facebook sera largué, et tout à l'heure Charles Monod pour Monoclaim nous disait au contraire, je veux avoir du Meta parce qu'aujourd'hui ils paraissent un peu extraterrestres avec leur idée de métaverse, mais peut-être que ce seront eux les disrupteurs, même si aujourd'hui personne n'y croit. Donc lui nous disait il faut quand même avoir un petit peu de Meta en portefeuille. Meta qui publiera mercredi soir. Bon, est-ce qu'on se dit que les résultats des entreprises ici en Europe, pour le coup, pourraient surprendre plus agréablement que les résultats des entreprises américaines. Mathieu, on est au tout début en Europe, on n'est pas encore aussi avancé qu'aux États-Unis, mais pour l'instant, on a plutôt une première impression un peu plus positive que la première impression que nous avaient donné les résultats des entreprises américaines.
En fait, c'est la photo opposée hein, quand on regarde les résultats, c'est-à-dire qu'on est sur une croissance positive. Et sur toute la zone Europe au sens large, hein, on est aux alentours de 5% de croissance positive des bénéfices en glissement annuel. Donc ça, c'est positif. Mais par contre, elles surprennent négativement à la baisse. Donc c'est l'effet finalement miroir de ce qu'on a aux États-Unis. Il y a eu moins finalement de guidance. Les entreprises ont moins finalement guidé les analystes, le marché, etc. Sur les publications. Et donc on a cet effet complètement inverse. Alors. L'Europe, c'est un petit peu dans une situation plutôt favorable en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'on là, on a revu nos prévisions de croissance à la hausse hein, sur la zone euro. On s'attend à une stagnation et non plus une récession parce qu'on a un certain nombre de facteurs qui viennent aider. Hein, la baisse des prix énergétiques, le choc énergétique a quasiment totalement disparu. On est passé de plus de 300 euros le mégawatt-heure sur le gaz à 50, un peu plus de 50 aujourd'hui. C'est entre 80 et 90% de baisse. Donc c'est tout à fait colossal. Et puis on a la réouverture de la Chine. Alors la Chine, est-ce qu'il faut s'exciter énormément sur l'impact que ça peut avoir sur la zone euro? Lorsqu'on regarde un petit peu la Chine, c'est vrai que c'est un excès d'épargne absolument colossal. Hein, c'est un petit peu l'effet miroir, là encore aussi, des États-Unis et de l'Europe en 2021. Excès d'épargne qui va se déverser. Mais ça devrait se déverser essentiellement dans le secteur des services, hein, puisque, et là on l'a bien observé d'ailleurs dans les économies aussi développées, c'est vraiment dans le secteur des services que se font les dépenses les plus importantes, parce que c'est là qu'il y a une carence en termes de dépenses lorsqu'on est en phase de confinement. Donc, le secteur des services, est-ce que c'est un secteur de biens échangeables? Pas tellement. Hein, c'est plutôt quelque chose de très, très domestique. Donc, finalement, l'impact sur la croissance mondiale pourrait être un peu plus limité que ce qui est prévu. Par contre, pour l'économie chinoise, évidemment, c'est un impact qui peut être absolument considérable.
D'accord. Donc, mais attendre un impact moindre de la réouverture chinoise et de la croissance chinoise que l'impact qu'on pouvait lui trouver avant la crise Covid, par exemple. Voilà.
Oui, parce que encore une
fois. Même pour les Allemands, par exemple, dont on entend que les Allemands pourraient particulièrement profiter de cette réouverture chinoise, l'Europe davantage en profiter que les États-Unis, vous vous dites attention, méfiance là-dessus, faut pas trop s'emballer.
Alors, on va avoir un stimulus, hein, c'est la raison pour laquelle on révise aussi à la hausse nos prévisions, mais on voit des choses qui sont un petit peu extravagantes en termes d'impact potentiel. Il faut bien regarder où se retrouve la demande, in fine. Et si on essaie d'extrapoler un petit peu ce qui s'est passé dans les économies développées sur la Chine, c'est essentiellement vraiment le secteur des services qui pourra en bénéficier. Et là, encore une fois, c'est plutôt un service, un secteur qui est plutôt domestique. Bon, donc, on est quand même dans une phase plutôt favorable. Ça devrait permettre aux bénéfices de continuer à se maintenir. Reste encore la question des marges. Et là, on est encore sur le même problème qu'aux États-Unis. Et un certain nombre d'entreprises nous envoient des signaux qui nous montrent que ça pourrait commencer vraiment à s'éroder. Et d'ailleurs, les données le montrent. Hein, lorsqu'on décompose un petit peu les publications, on voit de l'érosion de marge. C'est simplement qu'on change de régime. Ce n'est plus un régime où le pouvoir de fixation des prix est très élevé. Hein. Les stocks ont été reconstitués, c'est important. Hein. Lorsque vous regardiez à l'époque, en 2021, ce qui se passait, ou voire même en 2022, on était sur des niveaux au début de stocks qui étaient très faibles. Et donc, il fallait puiser comme ça de façon très importante. La demande avait tendance à bien générer justement des augmentations de marge. On n'est plus dans ce contexte-là. Maintenant, les entreprises ont des stocks qui sont quand même assez riches. Il y a quelques secteurs qui sont encore avec, je dirais, des carnets de commandes qui sont importants, comme le secteur de l'automobile, etc. Mais sinon, les stocks sont à des niveaux élevés. Donc, les marges vont souffrir cette année. Et donc, on devrait quand même avoir aussi des résultats de bénéfices qui sont moins élevés que le consensus. Et en Europe, il y a eu très peu de révisions à la baisse hein, sur les attentes, sur les bénéfices cette année. Et donc là, il va falloir faire attention, justement, parce que les révisions, elles vont venir. Dernier point, on n'en parle pas beaucoup, mais la force de l'euro. Un indice comme l'Eurostoxx, c'est 50% des revenus, des chiffres d'affaires hein, qui sont réalisés en dehors de la zone euro. C'est un indice qui est hyper internationalisé. Si vous avez une appréciation de l'euro, vous avez un effet de redénomination des bénéfices réalisés à l'extérieur en euros qui est négatif quand l'euro monte. Ouais. Donc l'appréciation de l'euro, et on le sait, hein, on a des sensibilités qui tournent aux alentours de 0,5 à peu près, c'est-à-dire une appréciation de 1% de l'euro réduit de 0,5% les bénéfices en zone euro. Donc c'est pas un impact négligeable. Hein.
Et en même temps, ça limite la facture énergétique quand même.
Oui, alors ça c'est le premier point, puis ça jouera plutôt. Alors ça a plutôt joué favorablement.
Ah. Ah oui,
l'euro était faible en 2022. Là, ça va changer, mais dans les chiffres qu'on annonce, il y a un peu cette faiblesse de l'euro en 2022. Donc,
Et si on regarde de façon prospective.
Oui, prospective, mais c'est
bien,
ça.
Voilà, il faut se méfier parce que.
Oui, mais en même temps, la baisse de l'euro, c'est oui, autant d'inflation importée en moins.
En moins, oui, tout à fait.
De ce point de vue, enfin, l'un dans l'autre, quoi.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est plutôt négatif ou positif l'un dans l'autre? On verra plus tard. De toute façon, on verra jusqu'où la hausse de l'euro ira.
En fait, quand on reste dans ces niveaux-là, les effets se compensent. On fait un effet en V, quoi. C'est-à-dire qu'on a baissé précédemment en 2022, remonté en 2023 un petit peu. Donc, ça se compense. Donc, faudrait pas que ça aille bien au-delà, quoi. Enfin, c'est sûr que si on décalait vraiment très fortement un euro à la hausse, là, ça pénaliserait les chiffres d'affaires, même si l'énergie était moins coûteuse. Pour revenir sur l'IA, je pense que ce qui est intéressant en ce moment, c'est justement ce phénomène de ChatGPT. C'est ça fait réaliser ce qui est en train de se passer en sous-marin qu'on voit pas forcément. C'est-à-dire que il y a quand même pas mal de métiers. Moi, je travaille avec AI4Alpha, qui est une société qui fait de l'IA pour l'asset manager, pour la gestion d'actifs en général. Et on voit des applications qui sont intéressantes. Et la gestion d'actifs a pas du tout été disruptée pour le moment par ce genre de choses. A été disruptée, on va dire, par la gestion passive. Hein. On le voit, ça a été énormément disruptée par ça. Est-ce que demain il y aura pas une disruption par rapport avec ce genre de technologie? Ça peut être intéressant. C'est des thèmes qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit, messieurs, dames, les gérants. Oui.
D'ailleurs, on intègre maintenant dans nos signaux d'investissement des éléments qui sont liés justement à des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller trouver des indicateurs finalement qui permettent d'essayer d'inférer les mouvements de marché à venir. La révolution, elle est déjà en marche.
Et faire de la gestion active pilotée par une intelligence artificielle.
Qui sont totalement objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que toutes les gestions, on a tous nos biais. Et d'avoir des éléments un peu objectifs et froids, on va dire, permet d'avoir des instruments. Après, le gérant reste libre de faire ses mouvements, mais avec des réflexions qui sont un peu plus froides, un peu plus objectives.
On poursuit nos échanges dans un instant. Alain, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous, le senior economic advisor sur les thématiques ESG, l'investissement responsable, la transition énergétique. Vestas a vécu une sale année 2022 et le titre Vestas est en train de reculer nettement. C'est le numéro 1 mondial de l'éolien. Alors, dites donc, la transition énergétique, l'éolien, la demande énorme. Et pourtant, Vestas qui nous annonce un avertissement sur résultat après des pertes plus lourdes que prévues en 2022. Alors ça, vous nous expliquerez tout dans un instant. On va se retrouver dans un instant, donc après la pause. Et après avoir aussi pris le pouls de Wall Street, Sabrina nous attend à New York. On se rend sur place à New York. Donc, pour vous retrouver, Sabrina, les indices américains. Il est maintenant 11h21 chez vous, 17h21 ici en France. Les indices américains sont assez mitigés, mais plutôt dans le vert quand même.
Oui, on sent quand même qu'on veut pousser là sur ces marchés américains. On a une hausse d'ailleurs hein, sur l'ensemble de la semaine, sur l'ensemble de ce mois de janvier également. Le Nasdaq est d'ailleurs bien parti pour enregistrer son meilleur mois depuis juillet avec un gain de plus de 10%. Le Nasdaq qui grimpe actuellement de 0,3%, 11 552 points. Le S&P 500 de son côté est à 4 059, quasi inchangé. Le Dow Jones inchangé également. Pas mal sur ces deux indices depuis ce matin. L'ouverture des marchés qui continuent bien sûr de digérer les chiffres de la croissance qui laissent espérer peut-être un atterrissage en douceur, même si les craintes de récession persistent. Avec aujourd'hui d'autres statistiques concernant l'inflation, la mesure préférée d'inflation de la Réserve fédérale américaine, le core PCE qui grimpe de 4,4% sur un an et de 0,3% en glissement mensuel. C'est en ligne avec les attentes de la communauté financière. Les dépenses des ménages de leur côté qui ont reculé de 0,2% en décembre, les revenus plus 0,2%. Des chiffres qui seront bien sûr décortiqués par la Réserve fédérale américaine. Le consensus table sur une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion avec encore beaucoup de résultats d'entreprise. Aujourd'hui, bien sûr, les marchés se concentrent sur cette méga déception. Intel, c'était hier soir après la clôture, des chiffres mauvais. Avec des résultats, des revenus qui ont chuté de 32% sur le trimestre écoulé, une perte de 644 millions de dollars. Les marges également, déception de ce côté-là, pas mieux pour les prévisions. D'ailleurs, le groupe ne donne pas de prévisions pour l'ensemble de son exercice, étant donné les incertitudes liées à l'inflation et à une récession potentielle. C'est ce qu'a mis en avant Intel, qui s'attend néanmoins pour le trimestre en cours à une nouvelle perte. Le titre Intel, qui recule depuis ce matin à l'ouverture, avec toute une série d'analystes qui ont abaissé leurs recommandations sur le titre, leur objectif de cours Intel. En repli donc depuis ce matin, on perd un petit peu plus de 7% sur le titre, $27.72. Et puis Mattel également, qui est en repli, moins 6% après un avertissement. Le groupe doit publier ses résultats le 16 février prochain. Et les résultats ne seront pas bons, nous dit aujourd'hui Hasbro, qui s'attend à une baisse de 17% de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé et qui annonce parallèlement des licenciements. 15% des effectifs sont concernés, avec un titre qui perd donc un peu plus de 6% actuellement, mais un marché qui tente de rester en positif. Le Nasdaq est en hausse de 0,4%, le S&P 500 est à 4061 points, le Dow Jones plus 0,01% désormais. On notera la belle performance d'American Express après les prévisions pour l'ensemble de son exercice optimiste, et le titre prend plus de 10% actuellement. Voilà donc pour ces marchés américains, Guillaume. Le Dow Jones, 33 951 points. Le Nasdaq, encore en tête, plus 0,3%.
Merci Sabrina. Bien sûr, vous nous accompagnez depuis New York tout au long de cette fin de semaine et de cette séance américaine qui se passe tranquillement du côté des indices, même s'il y a de vrais arbitrages côté valeur, vous l'avez dit. En Europe, on est assez calme sur les indices aussi. Le CAC 40 est stable à 10 minutes de la clôture. Pas de vraies variations. 7 092 points. On note quand même Airbus qui subit plusieurs abaissements d'opinion depuis quelques jours. Airbus recule en ce moment de plus de 3,5%. On y reviendra juste après la clôture avec nos experts. Également à surveiller aujourd'hui parmi les valeurs, bien sûr, LVMH, qui a publié hier soir, qui tout à l'heure a touché un nouveau record historique sur sa publication. Mais Citi émet des réserves sur les marges. On en a beaucoup parlé dans la première partie du club, des marges, l'enjeu autour des marges. Eh bien, LVMH subit quelques très limitée prise de bénéfices. On ne recule que de 0,1%. On est toujours autour des 800 euros 50 en ce moment pour ce titre LVMH, qui donc tout à l'heure a battu un record historique, tout comme Hermès. On en parle avec Alain Pitou, senior economic advisor sur les thématiques socialement responsables, et Mathieu Loire, responsable de la gestion diversifiée institutionnelle pour AXA IM. Juste pour se remettre d'équerre là, pour nos auditeurs et téléspectateurs qui nous rejoignent, on gagne toujours sur le CAC depuis le début de l'année, 9%. C'est-à-dire qu'on a entamé la saison de publication, on préserve l'essentiel des gains et du rallye des derniers mois. On se dit que ça doit corriger, ou on est en train de relever, vous êtes en train peut-être Alain, de relever vos objectifs sur les marchés pour l'année compte tenu de ce mois de janvier incroyable?
Non, en fait, l'inflexion a eu lieu en septembre-octobre, avec un marché qui s'est construit de manière assez implacable en fait. Quand on oublie tous les bruits qui peuvent toujours nous tomber dessus, toutes les problématiques géopolitiques, une banque centrale qui se trompe, il y a quand même suffisamment de quoi faire pour avoir des nuages au loin et des incertitudes toujours assez fortes. Mais si on regarde comment ça s'est construit, en fait on avait un excès de survente sur beaucoup d'actifs, avec vraiment un effondrement total sur la partie obligataire. Et puis à un moment donné, ça a commencé à se retourner, ça a commencé par le high yield, la dette émergente, enfin des choses qui sont quand même extrêmement volatiles, extrêmement sensibles. Et puis à un moment donné, malgré des nouvelles qui étaient toujours assez mauvaises sur ces créneaux-là, des flux qui ont commencé à arriver et des marchés qui ont arrêté de reculer. Et puis ça s'est calmé sur les taux, ça s'est calmé aussi sur les devises, avec le dollar qui était au plus haut, et ça correspondait au moment où la dette émergente était elle au plus bas. Et puis quand ça s'est calmé sur le dollar, il y a eu un peu moins de pression sur l'échange, un peu moins de pression sur la livre, un peu moins de pression sur l'euro, on évoquait tout à l'heure, un peu moins de pression également sur le yen, qui était quand même sur des niveaux historiquement bas, et ça s'est calmé aussi sur ces trucs-là. Et ça s'est mis après sur les actions, et ça a commencé à tirer des flux. Et on l'a évoqué, vous savez, il faut pas grand-chose parfois pour inverser des tendances. Et c'est vrai que les hedge funds ont été, se sont totalement retournés. C'est-à-dire qu'ils étaient, ils ont fait une année 2022. Si je pense aux les gérants qui font ce qu'on appelle du trend following, qui suivent les tendances, ont fait une année exceptionnelle. Ils font une année à plus 20%. Les CTA, les gros CTA l'année dernière font plus 20%. Et ont commencé à se retourner à partir de mi-décembre. Ils étaient short sur, enfin très vendeurs sur les obligations, vendeurs sur les actions. Ils étaient acheteurs de dollars et ils avaient fini l'année en étant, enfin à partir de fin d'année, ils étaient également vendeurs sur les commos. Enfin d'ailleurs vraiment très adverses
les matières premières.
Économiques ouais. En fait. Hein, c'était vraiment, ils jouaient vraiment la récession. Et en 3 semaines, ils se sont totalement retournés. J'ai franchement, moi je suis ces indicateurs-là avec, je l'évoquais tout à l'heure avec I4 Alpha, on regarde ces indicateurs-là au quotidien et ils ont commencé à se retourner à partir de mi-décembre environ, à commençant à racheter leur position short sur les equity. Et ils font une année en ayant entamé l'année en étant un peu vendeurs en net, ils sont qu'à moins 1%, ce qui est pas beaucoup par rapport aux positions qu'ils avaient, et ils sont en train de passer positif. Donc les trend followers sont en train de s'engager pour être résolument positifs.
Est-ce que l'AI, l'intelligence artificielle, arrive à nous dire si justement ces acteurs de marché ont encore beaucoup de liquidité à investir?
Mais ils n'ont pas de problème de liquidité. Ouais. Non, ça c'est même les global macro, par exemple, enfin les deux gros acteurs des hedge funds qui sont les global macro, donc ils jouent vraiment les tendances de fond. On fait un peu le même mouvement, mais un peu moins violemment. Mais ce qui est impressionnant, c'est les trend followers qui ont vraiment fait une bascule totale. Alors après, ça dit pas ce que ça donnera comme résultat dans les années qui viennent, mais dans les mois qui viennent, mais c'est quand même un indicateur. Et eux ont encore de ce qu'on appelle de la poudre sèche, puisqu'en fait, ils peuvent aller grosso modo de moins 3 fois leurs actifs à plus 3 fois leurs actifs en position. Donc ils font attention au risque, hein, c'est leur travail, mais donc ils ont quand même largement de quoi encore être en rajouté. Et c'est un peu, vous savez, il suffit pas grand chose pour déstabiliser le marché. Ils l'ont déstabilisé dans le sens positif parce qu'il y a pas mal de gérants. Et là, on le voit, moi je le vois dans les perfs des fonds allocataires qui, pour beaucoup, avaient pas pris ce mouvement. Mais c'est normal. Enfin, et on raisonne, ils sont obligés de raisonner sur très longue durée. Mais les mouvements en V comme ça sont très difficiles à capter. Oui. Et eux vont peut-être devoir à un moment donné y aller parce qu'on peut pas se permettre d'être en retard par rapport à leurs indices.
Là, il fait pas bon être un gérant qui a suivi la tendance de marché en 2022 et ne suit pas celle de ce début d'année 2023.
Ça fait très très mal.
Plus compliqué. Mathieu, est-ce que vous croyez au no landing? Voilà, on voit les indicateurs qui tiennent sacrément bien aux États-Unis. On l'a encore vu hier, notamment sur les commandes de biens durables, l'emploi aussi, les inscriptions au chômage qui reculent toujours. Aujourd'hui, on a le PCE qui se détend encore, même hors énergie, même hors alimentation, ça se détend. Un ralentissement, nouveau ralentissement des hausses de prix. Est-ce qu'on va bel et bien vers un no landing, y compris en Europe, puisqu'ici aussi le marché de l'emploi tient sacrément bien et on voit les indices d'inflation aussi ralentir?
Ouais. Alors moi, je vois un scénario de divergence entre les États-Unis et l'Europe maintenant. Alors l'Europe, on en a déjà parlé, il y a des facteurs positifs, la baisse des prix énergétiques et l'ouverture de la Chine. Ça en fait partie, donc ça c'est un élément effectivement qui aide. Bon. Et puis par ailleurs, l'économie européenne est quand même moins sensible aux hausses de taux que l'économie américaine. Pourquoi ? Parce qu'elle est intermédiée par les banques et ça passe beaucoup moins par le marché et qu'on a beaucoup moins de taux variables en Europe qu'aux États-Unis. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire le coup de massue de la BCE sur l'activité, il sera moins fort finalement que le coup de massue de la Fed sur l'activité économique aux États-Unis. Bon. Donc on a ce scénario de divergence. Alors est-ce que les États-Unis peuvent faire un atterrissage en douceur ? Moi je ne pense pas. Et ça pour plusieurs raisons. Alors, on a des données en demi-teinte. Hein. Oui, effectivement, les commandes de biens durables étaient meilleures que prévues, mais en fin de semaine derrière, rappelez-vous, hein, les ventes au détail et la production industrielle ont déçu. Elles sont en phase de contraction. Hein. Et lorsqu'on ajuste en fait de l'inflation, les ventes au détail sont en phase de contraction assez notable. Donc, on est en train de voir la consommation qui cale. Le PIB hier, hein, les chiffres de croissance du PIB, lorsqu'on gratte sous la surface, effectivement, oui, on a 2,9% en rythme annualisé au quatrième trimestre. Mais c'est lié à quoi ? C'est lié au stock, c'est-à-dire les entreprises qui restockent, mais comme je vous l'ai dit, on est déjà sur des niveaux de stock qui sont maintenant importants, donc ça n'a qu'un temps, quoi. Et puis, on a les dépenses budgétaires, et enfin, on a le commerce extérieur. Des éléments qui, encore une fois, n'ont qu'un temps. On parlera peut-être du debt ceiling, mais bon, là, je vois qu'on est proche de la finish line.
Plafond donc, de la dette. On est proche de notre plafond
voilà,
à nous.
Le plafond de la dette aux États-Unis. Il y a un risque, effectivement, qu'on ait un petit arrêt brutal aussi, pareil, sur le côté budgétaire. En tout cas, les marges de manœuvre budgétaire ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore quelques temps.
Il y a une deadline en juin, en l'occurrence, c'est ça?
Alors, la deadline, elle n'est pas très claire, parce que, comme d'habitude, il y a des marges de manœuvre du côté du Trésor américain. Nous, on la situe plutôt fin août. Bon. Chacun y va de sa petite estimation.
Ça va, Mathieu, on a le temps.
Bah oui,
on a le temps. Exactement, on a le temps. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément très, très propice pour ouvrir la bourse et dépenser. Et donc, ça pourrait effectivement limiter. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous enlevez ces trois facteurs-là, ben, il vous reste la demande intérieure qui est plutôt à tonne. Et ça, on le sait, c'est le moteur de l'économie américaine. Bon, premier élément. Et le deuxième élément, c'est Ben, on a paradoxalement donc une économie qui aujourd'hui tient. Le marché du travail, il tient bien. Alors, aux États-Unis, les journaux font les gros titres sur les licenciements dans le secteur de la tech. La tech, c'est 3% de la population, enfin du marché du travail. Hein, donc c'est extrêmement faible. Et lorsque vous regardez hors tech, il se passe rien. Hein, c'est-à-dire que vous êtes toujours sur des niveaux en fait d'inscription au chômage hebdomadaire qui sont extrêmement faibles. D'ailleurs, le dernier chiffre montre qu'on est revenu au niveau les plus faibles qu'on avait en avril de l'année dernière. Donc le marché du travail est hyper, hyper tendu. Bon, que va faire la Fed dans cet environnement-là? Bah, elle est obligée de faire mal. Elle est obligée d'effectivement faire ralentir l'économie pour que, on ait des tensions sur le marché du travail plus faibles et des croissances des salaires plus faibles. L'inflation dans le secteur des services aux États-Unis est toujours en phase d'accélération en glissement annuel. Donc on n'y est pas encore et pour nous, on doit passer par la case récession, même si c'est une récession faible, on va devoir y passer. Bon. Ça risque d'avoir un impact à un moment donné sur les marchés.
Et peut-être un peu moins de risque, peut-être un peu moins de risque en Europe de récession en l'occurrence. On pourrait voir l'Europe faire mieux que les États-Unis.
Enfin, c'est aujourd'hui le scénario qu'on a. Ouais.
Qui l'aurait cru? Bon, là, je vais saper le moral d'Alain Pitou. Voilà, vous êtes peut-être en deuil aujourd'hui, Alain. Vous, non, le spécialiste des thématiques transition énergétique, investissement responsable. Vestas, leader mondial de l'éolien, nous annonce des pertes.
Oui, mais enfin bon, l'éolien vit ce qu'a vécu le solaire il y a quelques années, c'est-à-dire gros investissements, des coûts élevés, une durée de rendement des actifs très longue et des difficultés pour s'implanter. Donc on est dans une période qui est quand même assez difficile avec des hausses des coûts de matières premières qui sont quand même assez élevées.
Des problèmes d'approvisionnement aussi.
Des problèmes d'approvisionnement, voilà. Donc je pense que ils vivent une période un peu difficile, mais si on se remémore ce qui s'est passé, et moi j'ai en tête, je préfère le solaire dans l'activité et ces activités-là commencent à être rentables de manière assez pérenne, donc voilà, c'est un investissement long hein, bien sûr, mais moi je reste l'éolien, encore une fois c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, pour les gens patients ça finira par être performant, mais bon voilà, c'est faut être patient.
Une valeur sur le solaire?
Moi j'aimais bien Force Solar, mais là ça commence à être un peu cher.
D'accord.
Voilà. Et par contre, je déteste Chevron qui fait des rachats d'actions massifs, comme quoi on peut pas demander à l'épargne mondiale de financer le pétrole, puisque même les compagnies pétrolières n'investissent pas leurs résultats dans leur activité, n'investissent pas dans le renouvelable et préfèrent rendre l'argent à leurs actionnaires, donc qui continuent. Et puis moi, je souscris pas à ce genre de valeur.
Voilà. Bon, c'est clair au moins. Alain Pitou, merci beaucoup de nous avoir accompagnés tous les deux, senior advisor ESG, Mathieu Loire également à nos côtés, responsable de la gestion diversifiée institutionnel d'AXA IM. Bonne soirée. Dans un instant, la clôture, on va la vivre. On va rejoindre Étienne Brack depuis la Tour Euronext. Ce sera dans moins de 2 minutes. Vous êtes bien sur BFM Business. On est un tout petit peu en retard. Ce sera mieux. C'est la clôture sur les marchés européens. On rejoint depuis la Tour Euronext Étienne Brack. Étienne, est-ce qu'on arrive à sauver cette séance, en tout cas à échapper à une baisse ce soir en clôture?
Eh bien, on clôture parfaitement stable cette séance, Guillaume, et on a un CAC 40 qui est une nouvelle fois à la porte des 7000 points. 7097 points, c'est une hausse de 0,02%. Donc, autant dire que c'est stable. Séance qui, finalement, n'a pas clôturé au plus bas du jour, hein, puisqu'à 15h, on perdait environ 0,4-0,5%. Et puis, entre-temps, vous avez Wall Street qui s'est repris. Malgré la forte baisse d'Intel, eh bien, vous avez le Nasdaq qui gagne 0,5%, Dow Jones qui gagne 0,1%. Marché qui est plus ou moins rassuré après des chiffres d'inflation conformes aux attentes au mois de décembre. Ça fait quand même grimper un petit peu le marché obligataire, mais ça n'empêche pas les valeurs de croissance de monter. Quand vous regardez le 10 ans américain, il reprend 4 points de base à 3,52. À noter qu'aujourd'hui, la séance a été animée par LVMH qui était en baisse ce matin. Le titre s'est repris, record, et puis finalement il clôture cette séance stable puisqu'on a un titre qui perd 0,07% et qui arrive à franchir les 801 € ce soir à la clôture. À noter que le secteur des spiritueux est mal orienté ce soir avec la publication des chiffres d'affaires de Rémy Cointreau. Avec une activité qui se normalise, un groupe qui ne revoit pas ses objectifs, bah forcément quand ça se paye 30 fois les résultats, le titre est en baisse, moins 3,7% à 168 €. Dans le sillage, Pernod Ricard perd 1,8%, sachant que le titre perdait déjà du terrain hier dans le sillage de Diageo. Et puis à noter Airbus qui perd 3,5% aujourd'hui. Plusieurs brokers qui revoient leur opinion sur le titre, 116,62 €. Et puis à l'inverse, le secteur bancaire qui est bien orienté avec la remontée du marché obligataire. Et donc le CAC 40 qui clôture stable ce soir, mais c'est une semaine positive, puisque sur l'ensemble de la semaine, vous avez un CAC 40 qui gagne 1,4%. On gagne désormais 9,5% depuis le 1er janvier. Et donc un CAC 40 qui est quasiment sur ses records. Quand vous regardez le CAC 40 dividendes réinvestis, on est à moins de 1%. Et à noter que ce soir, on a des volumes qui sont au rendez-vous. 3,6 milliards d'euros échangés dans l'indice parisien.
Merci Étienne, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée. La Tour Euronext sur BFM Business chaque jour. À tout à l'heure Étienne. Le CAC 40, les leçons surtout à tirer de cette nouvelle séance. Comment vous préparer au mieux aux prochaines publications à la semaine prochaine. Bref, des clés pour agir sur vos portefeuilles, faire votre miel de cette séance. On va s'y atteler tout de suite, vous apporter un maximum d'idées pratiques. On est à vos côtés jusqu'à 18h. C'est parti.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce ce soir à Bruno Kuss, rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Et Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Guillaume.
Bon, on a sauvé les 7000 points, largement même, on est proche des 7100. Oui, oui, on a plus que sauvé même. 7097 ce soir sur le CAC, on termine stable. Oh, je vous sens un peu déçu l'un et l'autre sur LVMH. Publication record, peut-être quelques petits doutes sur les marges. En tout cas, LVMH, ce soir, termine ouais, à peu près stable, comme Étienne le disait. Petite baisse de 0,07%, au-dessus quand même des 800 euros. Vous êtes déçu par la réaction des marchés à la publication, Thierry ?
Non, bah, les marchés avaient déjà bien porté le titre hein, sur des niveaux de 800 euros. Là, on est sur des ouais. records historiques.
Ce matin, on a battu un nouveau record historique.
Oui, c'est ouais. ça. Ça doit être peut-être un record historique de clôture. Donc non, le groupe voilà, a 14,1 milliards de profits sur l'année dernière. C'est un tout petit peu en deçà des attentes qui étaient autour de 14,2, 14,3. Les marchés sont un tout petit peu en deçà des attentes, mais... C'est beaucoup d'investissements qu'ils ont passés en amont, justement, de la réouverture de la Chine, qui ont un petit peu pesé. Donc, c'est des investissements pour préparer le futur, déjà. Donc, non, pas déçu.
C'est votre valeur préférée dans le luxe ou il faut acheter, essayer de trouver des valeurs un peu moins chères? C'est cette question que nous a envoyée Ambre. Faut-il, dans le luxe, privilégier les valeurs les plus chères ou, au contraire, les moins chères, qui ont peut-être du retard à rattraper?
Bah, les plus chères, c'est Hermès ou Ferragamo, c'est 45 fois les profits. Si on regarde le groupe du luxe global, ça se paye 27 ou 28 fois les profits. Et LVMH, c'est presque... elle est plutôt en dessous de la moyenne, elle est à 25, 26 fois les profits.
Ah oui.
Avec un profil de croissance et un profil de portefeuille diversifié qui est très attractif. Donc s'il y en avait une dans le luxe qui serait notre préférée, ça serait celle-ci. Et pourquoi
c'est
pas,
value, LVMH c'est value.
Quasiment, enfin en tout cas dans le secteur, oui. Et puis, c'est value et croissance. Et le meilleur des deux mondes. Et puis pour jouer un call sur la réouverture de la Chine, peut-être Gucci. Et puis, la croissance de Saint-Laurent qui pourrait peut-être reporter de nouveau Kering vers des niveaux un peu plus élevés qu'actuellement.
Bon, LVMH, des résultats records, c'est plutôt de bon augure pour les autres publications qui suivront. Ce matin, on rappelle qu'Hermès aussi a touché un record historique en bourse en cours de matinée. Bruno.
Oui, alors moi, je m'attendais quand même à ce que LVMH baisse un peu, parce qu'il y avait quand même une petite déception sur la marge du deuxième semestre. Et on a beaucoup parlé de la Chine, mais enfin moi, ce que je vais regarder surtout, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de la croissance aux États-Unis. Parce qu'on a vu que les ventes de LVMH, tout au long de l'année dernière, la croissance a ralenti. On est parti de 26% au premier trimestre et on est atterri à plus 7% seulement au quatrième. Je pense que c'est ça qui va falloir regarder dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je pensais que ça allait faire un peu tiquer les investisseurs. Pour l'instant, personne, ça n'a pas trop réagi, mais il y aura peut-être des recalculs, enfin des ajustements dans les semaines qui viennent en fonction de ces choses-là. Cela dit, les résultats sont remarquables. Hein. On peut pas du tout.
On va pas chipoter.
Non, c'est des performances.
City émet des réserves sur les marges, des petits doutes. Bon.
Non, parce qu'effectivement, on a vu que le groupe a beaucoup investi. Hein. Il y a la Chine. Bernard Arnault a dit qu'il fallait faire attention. Bon, il ne faut pas trop s'emballer sur la Chine. Ça prendrait quelques mois. Et c'est vraiment au deuxième semestre qu'on aura vraiment un redémarrage chinois. Donc, ça va se faire progressivement. Pas trop s'emballer sur la Chine.
Vous parlez de la Chine. Alors justement, est-ce que les marchés n'attendent pas trop de la réouverture chinoise? On voit cette réouverture qui ouvre peut-être des perspectives macroéconomiques meilleures et peut-être pousse un certain nombre d'investisseurs à rehausser leurs attentes sur les publications des entreprises. On voit Rémy Cointreau, par exemple, qui n'a pas relevé ses prévisions à l'occasion de sa publication. Rémy Cointreau n'a pas relevé ses prévisions, malgré la Chine, malgré les indicateurs économiques en Europe et aux États-Unis aussi, qui sont meilleurs qu'attendus. Et ce titre Rémy Cointreau, ce soir, recule de quasiment 4%, deuxième plus forte baisse du marché parisien. Bruno.
Oui, alors là...
Est-ce que c'est le signe que ceux qui ne parviendront pas à relever leurs prévisions alors que la Chine réouvre, qu'on a plutôt des bonnes surprises économiques, seront à chaque fois sanctionnés?
Ça va dépendre un petit peu des valorisations. Là, en l'occurrence, on attend toujours beaucoup de Rémy Cointreau parce que c'est une valeur qui se paye cher. Hein. On est à 30 fois les bénéfices. Donc, quand on se paye 30 fois, on doit délivrer de façon assez régulière. Mais le groupe avait prévenu que sa croissance ralentirait. Il y a des effets de base qui sont très importants. Et il y a toujours cette question des États-Unis aussi. On a vu que la consommation de cognac baisse. Enfin, la croissance diminue aux États-Unis. Et donc, il y a Chine et États-Unis aussi dans le cadre de Rémy Cointreau qu'il va falloir surveiller.
Bon.
La baisse de 6% du chiffre d'affaires, c'est pas vraiment une surprise. Hein. La société avait, sur le T3, la société avait quand même communiqué dessus.
Mais il faut convaincre Thierry en face de vous de consommer plus de cognac pour compenser l'éventuelle baisse. Thierry, Rémy Cointreau ce soir, est-ce que c'est un point d'entrée cette baisse, moins 3,7%? Est-ce que vous avez envie d'en profiter pour, pourquoi pas, renforcer Rémy Cointreau dans vos portefeuilles?
Pas encore, parce que voilà, comme a dit Bruno, ça se paye plus de 30 fois les profits. Et quand on se paye plus de 30 fois les profits, il faut vraiment avoir des belles perspectives de croissance. Et là, moins 6% de croissance organique sur le trimestre, c'est certes un petit peu mieux que ce qui était attendu, mais c'est quand même pas de la croissance. Et puis on a vu que Rémy Cointreau avait annoncé qu'en Chine, il y avait eu des précommandes liées au Nouvel An chinois qui étaient records. Et malgré cette annonce-là, ils n'ont pas fait preuve d'optimisme pour en profiter, pour relever les guidance. Donc on traduit ça par un petit peu pas de pessimisme, mais en tout cas de prudence de la part du management. Donc on n'a pas envie d'y retourner tout de suite. Et puis, comme vous dites, la Chine qui serait ouf, ça va mettre un petit peu de temps. Dans le discours de LVMH, il a été dit que l'affluence dans les grandes villes chinoises était encore 30 ou 40% en deçà de ce qu'elle était pré-Covid. Donc ça va mettre un petit peu de temps à se traduire tout ça. Il ne faut pas en attendre trop vite.
Il est 17h47, vous êtes bien sur BFM Business. Le CAC a terminé cette séance quasi stable, 7097 points, parvenant donc à très très légèrement progresser, juste pour le symbole de 0,02%. Notez qu'à Wall Street, Intel souffre après sa publication, son warning. On en a beaucoup parlé tout au long de l'après-midi sur BFM Business. Intel perd en ce moment 7%. La semaine prochaine, 4 GAFAM vont publier. On a déjà eu Microsoft cette semaine. La semaine prochaine, les autres publieront. Quelles sont dans les publications américaines et européennes aussi, celles que vous surveillerez le plus, Thierry, pour essayer d'apporter toujours un coup d'avance à ceux qui nous suivent?
On essaye. Alors, la semaine prochaine, il y aura Meta. Déjà, le 1er février, c'est mercredi après bourse. Et puis, le 2, il y aura Apple, Amazon, Alphabet. Donc là, voilà, pour le Nasdaq, ça va être des grosses dates, des gros indicateurs.
Jeudi après clôture, ça va être énorme.
Ça va être vendredi. Et puis, en parallèle de ça, vous avez la Fed qui doit annoncer ses taux. Alors voilà, plus 0,25, c'est quasi fait. Mais c'est surtout le discours pour les suivantes qu'on va attendre. Et puis le 2 février, il y aura aussi la BCE. Donc grosse semaine l'année prochaine.
Le jour des crêpes, la chandeleur, la BCE.
Exactement.
Ouais. Crêpes et BCE.
Et BCE. Et Apple, Amazon et Alphabet. Donc ça va être très très riche. En Europe, ça va être un peu moins riche. Il n'y a que Publicis parmi les grosses, SEB qui publie en début de semaine, Publicis le 2 février, Sanofi le 3 février, on va surveiller celle-ci.
Ah bon ?
Oui, parce qu'on aime bien. Ça se paye pas très cher. C'est une défensive de croissance et dans un contexte comme celui-là, on va surveiller ça. Mais c'est vendredi, on a encore un peu de temps.
Bon, on aura une semaine très riche, une crêpe bien garnie la semaine prochaine. S'il ne fallait regarder qu'un seul ingrédient, en tout cas ne garder qu'un seul ingrédient dans cette crêpe, il y a beaucoup beaucoup de publications à venir. Une seule publication parmi toutes celles qui nous attendent la semaine prochaine, laquelle allez-vous particulièrement suivre? Bruno.
Les plus marquantes sont celles de, je pense, la tech américaine. C'est ça qu'on va regarder parce que les tendances au T3 étaient un petit peu contrasté, on nous avait un peu laissé sur notre faim. On voyait ces grands groupes si puissants qui commençaient à souffrir, notamment au niveau des recettes publicitaires. Donc certains modèles économiques commencent à être remis en cause. Chez Meta, on ne sait pas si la société va poursuivre sur cette voie de gros investissements dans le métaverse. Donc des titres qui ont beaucoup corrigé déjà. Donc le discours sera intéressant et la performance aussi d'ailleurs, pour voir si on peut revenir ou pas sur ce secteur après cette correction qu'il a subie en 2022. Et puis en Europe, moi je regarderai quand même Infineon aussi pour dans le domaine des semi-conducteurs, pour voir si on corrobore un petit peu la tendance annoncée par ST Microelectronics hier, qui était plutôt bonne et assez rassurante.
C'était un tsunami d'optimisme même. Le patron d'ST Microelectronics était notre invité ce matin sur BFM Business. C'était vraiment un bain de jouvence de l'écouter. Franchement, il voit les choses en rose.
Avec ce qu'on a vu sur les acteurs américains notamment, parce qu'il y a une répartition du chiffre d'affaires complètement différente, beaucoup plus tournée vers l'automobile et l'industrie.
Que vers les PC.
Voilà. Et donc, voilà, Infineon et puis Deutsche Bank aussi dans la banque, parce que ce sera intéressant de voir aussi dans quelle mesure les banques absorbent ce ralentissement économique en termes de provisions.
On aura quelques banques espagnoles aussi la semaine prochaine, Banco Santander et BBVA. Exactement. Airbus, oui, Airbus, lanterne rouge ce soir du marché parisien, messieurs, moins 3,6% en clôture. C'est Julien Marion pour notre site BFM Bourse qui nous alertait tout à l'heure là-dessus dans la rédaction. Il nous disait, regardez, hein, depuis quelques jours, on a un certain nombre de brokers, d'analystes qui abaissent, qui dégradent leur opinion, leurs recommandations sur Airbus. Et ce soir, Jefferies, qui par sa recommandation également dégradée, eh bien entraîne Airbus en forte baisse de plus de 3,5%. C'est quand même pas tous les jours dans un marché qui a progressé. Est-ce qu'il faut revendre Airbus? Est-ce qu'il faut alléger les positions sur Airbus? Qu'est-ce qui se passe là dans l'opinion des brokers et des analystes sur Airbus?
Alors, il y a quelques vents défavorables. En premier lieu, il y a quand même cette parité euro-dollar qui redevient défavorable. Hein. Airbus en a profité l'année dernière, mais là, la tendance s'inverse et c'est plutôt Boeing qui va en profiter. Il y a toujours cette problématique d'inflation et puis surtout le cadencement, hein, la chaîne d'approvisionnement qui est toujours pas rétablie. Et Airbus aura du mal. L'année dernière, n'a pas tenu ses objectifs de livraison, hein, 661 appareils livrés contre 700 prévus. Et puis cette année, ça va rester encore difficile, ça va prendre du temps. Il y a un objectif de 65 appareils par mois de production, mais on est toujours autour de 45, je crois. Ça va prendre pas mal de temps. Cela dit, moi,
vous avez envie d'acheter là, la baisse ce soir, c'est un point d'entrée à vos yeux?
Peut-être. Bah, j'attendrai encore un petit peu, si ça baisse encore de 5%, je repasserai peut-être à l'achat, parce qu'on a quand même des fondamentaux qui restent très solides. Il y a un programme de rachat d'actions qui peut être mis en place. Il y a quand même 13 milliards de trésorerie qui laisse penser que la société va mettre en place un programme de rachat d'actions. Et puis ce carnet de commandes, 7000 appareils, 10 ans de carnet de commandes.
C'est dingue.
10 ans de chiffre d'affaires en carnet de commandes, c'est quand même appréciable, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, si le repli se poursuit,
Si le repli se poursuit, il est prudent quand même, Bruno Kuss. Est-ce que vous avez envie
d'attendre un petit peu que le marché, parce que je trouve le marché un peu trop haut.
Ah d'accord, vous pensez qu'il y aura une nouvelle correction parce que le marché dans son ensemble pourrait respirer un peu. D'accord. Cette stratégie, vous avez envie de l'adopter également, Thierry, vis-à-vis d'Airbus notamment?
C'est pas mal. Alors, il faudra peut-être qu'on achète juste avant Bruno pour être sûr d'en avoir. Mais oui. Le problème des goulets d'étranglement, hein, ça c'est post-Covid, c'est la fermeture de la Chine. Donc, et du coup, typiquement, encore une fois, Airbus, on en parle de cette Chine, mais cette Chine qui se réouvre, c'est une double bonne nouvelle pour Airbus. Déjà parce que la Chine, depuis les 20 dernières années, c'est 30% des commandes de monocouloirs et c'est 20% des commandes sur les longs courriers. Et puis, c'est surtout la Chine qui provoque tous ces goulets d'étranglement dans les cadences de production qui font, encore une fois, que Airbus a dû ramener ses perspectives d'avions libres. Et donc, à double titre, cette réouverture de la Chine est une bonne nouvelle. Comme on a dit tout à l'heure, ça va mettre un petit peu de temps tout ça à se faire. Donc, en effet, peut-être que dans les 2-3 prochains mois, on va atteindre des points qui vont d'entrée sur sur Airbus, qui est un leader mondial, qui se paye 20 fois les profits, qui a une trésorerie pharaonique. C'est vrai que ça devient appétissant.
Il y a une valeur dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et pourtant plus 23% en clôture, truc de dingue. Alors c'est un titre toujours très très volatile, donc c'est pour ça aussi qu'on relativise, mais plus 23%, solution 30, chiffre d'affaires quatrième trimestre, carnet de commandes surtout, prise de commandes qui atteignent un niveau historiquement élevé, nous dit solution 30, plus 23%. Bon, un petit mot là-dessus peut-être. Vous avez envie d'accompagner la hausse peut-être, Thierry?
Très spéculatif, si on veut en faire, faut y aller par petites touches, et c'est très spéculatif. Oui, ils ont battu les guidance. Les secteurs sur lesquels ils interviennent, les télécoms, etc., c'est quand même des secteurs un peu compliqués. Ils ont eu une mauvaise histoire en 2020 avec Muddy Waters et des histoires de blanchiment d'argent, etc., qui ont fait beaucoup beaucoup de mal au groupe, qui a quand même du mal à s'en relever. Donc ça va être des pertes cette année, on attend des profits l'année prochaine, mais encore va-t-il falloir concrétiser tout ça. Donc achat très spéculatif.
23% de hausse en tout cas ce soir, solution 30. Et puis une autre star dans cette séance, moins spectaculaire mais quand même, JC Deco, plus 3%, publication, les Jeux Olympiques qui approchent aussi d'ailleurs, qui sont un enjeu pour JC Deco. Vous avez envie d'acheter JC Deco, Bruno?
On était à l'achat il y a un mois, mais vu le parcours du titre, on ne l'est plus. On a repris quand même 75% en trois mois. On vient de très loin hein, sur JCDecaux. Alors effectivement, il y a l'effet Chine.
C'est mieux que les cryptos, dites donc. Oui, 75 en 3 mois. Là,
c'est l'effet, on joue clairement la réouverture de la Chine. C'est une société, une valeur très sensible à la Chine. On estime, hein, elle ne communique pas vraiment sur son chiffre d'affaires en Chine, mais on estime que c'est en temps normal une 20aine de %. Et donc, elle a réussi à faire 16% de croissance l'année dernière, malgré une baisse de 2% de son activité en Asie-Pacifique. Donc si la Chine repart, cette année, il y aura un levier très très fort sur les résultats. Voilà, je pense que le marché a déjà pas mal joué ce retournement de situation en faveur de JCDecaux.
L'une des valeurs qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, JCDecaux, donc à cette hausse de plus de 3% après sa publication. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés ce soir. Vos idées, votre vision, votre vista sur le marché régulièrement à nos côtés. Bruno Kuss, rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse, et Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion, étaient nos deux experts. Le CAC 40, on vous le rappelle, a terminé stable à 7097 points. Tout de suite, Guillaume Paul vous accompagne jusqu'à 19h. Good evening business. Bonne soirée et bon week-end à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.